Seigneur, n'avez-vous pas semé de la bonne semence dans votre champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous la figure symbolique de l'ivraie mêlée au bon grain, notre Seigneur nous expose, dans l'évangile de ce jour, l'un des mystères les plus obscurs de la foi chrétienne, celui du mélange des bons et des méchants. Ce mélange, qui est l'œuvre du démon, puisque c'est lui qui est venu semer le mal parmi le bien que Dieu avait fait, ce mélange durera tant que durera le monde. Et c'est justement cela qui cause notre étonnement, presque le scandale. Nous pensons que cela est outrageant pour Dieu et ne lui demanderions volontiers d'en tirer des conséquences, que la terre s'ouvre tout simplement et dévore ses pécheurs ingrats, tout comme les serviteurs de la parabole voulaient tout de suite aller arracher l'ivraie du milieu du blé. Mais Dieu ne juge pas comme nous. Heureusement, que serions-nous devenus si Dieu nous avait frappés de mort sans pitié et sans miséricorde lorsque nous étions dans le péché? Voilà pourquoi, au lieu d'exterminer les méchants, Dieu les tolère. Cependant, il ne saurait tolérer le mal pour le mal. Il tolère les méchants au milieu des bons, puisqu'il sait tirer de leur mélange un bien plus grand que ne serait l'anéantissement immédiat des méchants. Nous allons voir que Dieu tolère ce mélange des méchants avec les bons pour deux raisons. Premièrement, pour l'avantage des méchants, et deuxièmement, pour l'avantage des bons. Pour l'avantage des méchants d'abord. Il n'en est pas de l'ordre moral comme de l'ordre physique. Dans l'ordre physique, l'ivraie sera toujours ivraie et ne deviendra jamais froment. Mais dans l'ordre moral, celui qui est méchant aujourd'hui pourra être bon demain. Les vies des saints nous en fournissent de nombreux exemples. Saul, l'un des pires persécuteurs de l'Église primitive, se transforme en apôtre. Madeleine pécheresse devient modèle des âmes pénitentes. Ce qui paraît ivré aujourd'hui, disait saint Augustin en commentant cet évangile, peut être froment plus tard. En l'arrachant, vous arracheriez donc du froment. L'ivraie ressemble beaucoup au blé, tant que sa tige est verte et jusqu'à la formation de l'épi. On pourrait donc facilement se tromper en faisant une séparation trop hâtive. C'est pourquoi notre Seigneur nous avertit de ne pas précipiter notre jugement dans les cas douteux et d'attendre le jugement de Dieu. Et le bon Dieu, il juge souvent que tant que le méchant est en ce monde, il peut se convertir, il peut se sauver. Et ceux qui contribuent le plus, après la grâce du bon Dieu, à la conversion et au salut des pécheurs, c'est leur mélange avec les justes. Ils peuvent devenir justes eux-mêmes en vivant avec les justes. Pourquoi? Parce que les justes les instruisent, les justes les aident de leurs exemples et de leurs prières. Le secours des instructions est le premier avantage que les pécheurs retirent de leur société avec les gens de bien. Instruction dans la vérité et la charité sont inséparables. La vérité. Le juste ignore le langage fin ou d'intérêt propre. Il appelle le bien un bien et le mal un mal, sans détour, sans respect humain. D'ailleurs, le juste aime trop le pécheur pour le tromper. Et il désire ardemment son salut. Il ne veut pas devenir son complice en le flattant. Et cette vérité, dans la bouche du juste, sera toujours accompagnée de la charité. On aime le pécheur indépendamment de ses qualités naturelles et en vue de Dieu. On ne s'arrête ni à la beauté, ni au talent, mais à l'âme à sauver. Mais ce qui donne, en second lieu, une nouvelle force aux instructions des justes, c'est qu'elles sont soutenues de leurs exemples. La vie des justes est comme un livre, ouvert aux yeux des pécheurs, où ils sont parfois obligés de lire et de reconnaître la condamnation de leur conduite. Une sainte épouse peut sanctifier son mari qui vit dans le vice. Un saint époux peut inspirer à son épouse, peu chrétienne, l'esprit de modestie, de soumission dont elle manque. L'exemple qui renforce la parole est donc une voix puissante qui parle sans cesse au fond du cœur. Le juste, disant au cours un bon catholique, doit être donc un apôtre. Apôtre de la parole, apôtre de l'exemple, apôtre enfin de la prière. Troisième moyen par lequel le juste peut servir à la conversion des pécheurs. Priez, priez beaucoup, insistait Notre-Dame à Fatima, et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce que non personne qui se sacrifie est pris pour elles. Dieu, cher fidèle, nous a chargés du salut de notre prochain. Grand est le prix d'une âme, grand est l'injure que le péché fait à Dieu. Une âme juste, disait notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, une âme juste peut obtenir le pardon pour 1000 criminels, une pour 1000. Ceux qui prient, disait Donoso Cortés, écrivain et homme politique espagnol, ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent. Bien sûr, il faut les deux. Si nous pouvons pénétrer dans les secrets de Dieu, nous serions saisis d'admiration devant les prodigieux effets de la prière. S'il y avait une seule heure, un seul jour où la terre n'envoya aucune prière au ciel, ce jour et cette heure seraient le dernier jour et la dernière heure de l'univers. Mais ce mélange, si favorable aux méchants, n'est-il pas en même temps nuisibles aux bons, qui peuvent être entraînés au mal par les exemples des pécheurs, et qui, en tout cas, ont beaucoup à souffrir de leur malice, de leur injustice et de leur persécution? C'est ce qui paraît à première vue. Mais en fait, le bon Dieu tolère ce mélange aussi pour avantage des bons. Et, disait saint Augustin, tandis que les méchants font servir même le bien au mal, Dieu sait se servir même des méchants pour le bien. Le tout premier avantage pour les bons est que la vertu n'en paraît que plus éclatante au milieu de la corruption du monde. Dieu, il dispose et ordonne les créatures comme un peintre ses couleurs. Le peintre, il a devant lui diverses couleurs, mais il sait où placer chacune d'elles. Il en est de même de Dieu. Il a devant lui les justes, qui se conforment à sa volonté, et les pécheurs, qui la méprisent. Le pécheur veut être une couleur noire. Il servira à la sagesse du bon Dieu. Il servira comme un fond noir pour mettre en relief une couleur bien claire, la vertu du juste. Les méchants, en opprimant les justes, ils font éclater leur patience. En les chargeant d'injures, ils font briller leur douceur. On nous méprise, et voilà, nous devenons vraiment humbles. Ce mélange des pécheurs avec les justes, disait saint Augustin, est donc utile, puisqu'ils sont exercés par eux et aussi excités par leur vue à aller toujours au mieux. Les vices et la corruption des pécheurs donnent donc plus de solidité à la vertu des bons. Elles augmentent ainsi leur mérite et leur récompense. Quel mérite, chers fidèles, aurions-nous si la vertu n'était contredite, persécutée, si notre piété ne trouvait ici-bas que des louanges, si nous n'avions pas à lutter contre nos semblables, parfois nos proches, au milieu desquels nous vivons? Ce calme dangereux nous endormirait, ces faveurs humaines nous amolliraient. Qui n'avance pas, recule. On mettrait ainsi notre salut en danger. Voilà pourquoi le bon Dieu, Dieu infiniment bon, infiniment sage, infiniment patient, il tolère le mélange des bons et des méchants, pour le bien des uns comme des autres. Mais nous, chers fidèles, que devons-nous faire pour que notre prochain, qui est encore zizanie, devienne froment, et que nous, qui sommes, qui devons être froment, restions tels? Trois conditions seraient pour cela nécessaires d'accomplir. Ce seront juste quelques considérations de Mgr Lefebvre, parsemé dans ses conférences. Tout d'abord, nous devons maintenir la foi. C'est elle d'ailleurs qui a vaincu le monde. La maintenir dans les âmes, dans les familles, dans les écoles, on peut ajouter dans les séminaires et dans les couvents. Vivre de la foi surnaturelle, dans la prière, dans le saint sacrifice de la messe, dans les sacrements, la prière constante, une confiance indéfectible en notre Seigneur et la Vierge Marie. Maintenir la foi, mais aussi garder les principes. Les principes sont l'expression des plus hautes vérités, celles qui sont à l'origine de tout. Ils sont donc l'expression de la sagesse de Dieu. C'est par les principes, après la foi, que notre Seigneur règne sur nos intelligences et sur tout ce qui découle de nos intelligences, notamment nos actes. Nous devons garder les principes de la foi chrétienne pour agir selon ces principes, quoi qu'il en coûte, même si l'on nous considère comme des gens anachroniques, retardataires. Maintenir la foi, garder les principes, enfin être apôtre. Monseigneur Lefebvre, nous devons affirmer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, affirmer qu'il est notre Sauveur, notre Roi. Nous n'avons pas à avoir peur d'affirmer ces choses partout, devant tout le monde. Dussions-nous subir le martyre comme les apôtres. Que Notre-Dame, chère fidèle, maintienne et fasse augmenter toujours notre foi. Qu'elle fasse de nous des apôtres zélés de celui que nous allons bientôt recevoir dans la Sainte Communion, le pain des forts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.